Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, une émission spéciale autour des violences faites aux femmes. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup et toujours beaucoup trop. L'emprise, se sortir de l'emprise, un travail long et laborieux. Elisabeth témoigne de son viol et de son combat pour être entendue et permettre aussi que d'autres victimes puissent parler. Le témoignage, c'est important, mais ça demande du courage, puisque effectivement, quand on ose parler, on prend un risque, soit d'être considérée comme une pestiférée, une hystérique, une paranoïaque, une dépressive, soit d'être une héroïne qui a eu le courage de parler. Elisabeth.
À ce sujet-là, je voudrais juste rajouter le fait que j'ai une personne que je connais qui connaissait bien ce prédateur et qui ne m'a jamais cru quand j'ai commencé à en parler et qui, il y a peu de temps, m'a demandé pardon. Et je trouve ça très touchant parce que je comprends qu'elle aussi, elle était sous emprise. Et pour elle, elle ne pouvait pas m'entendre au moment où je dénonçais les faits avant que l'article de journal en février paraisse. Et elle me disait que c'était impossible à concevoir. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour elle parce que ça montre le phénomène d'emprise, combien de temps ça peut durer et à quel point des fois on ne peut pas entendre, on reste dans le déni pendant des années avant que ça sorte.
Alors vous aviez envie de nous soumettre un numéro de téléphone ?
Oui. S'il y a d'autres personnes, d'autres femmes qui se reconnaissent, ça serait bien qu'elles prennent contact avec le collectif féministe contre le viol. Donc le 0800 05 95 95. 0800 05 95 95. C'est une association ou un organisme qui propose de regrouper les témoignages et de nous mettre en lien.
En quoi c'est important ?
C'est important pour libérer la parole, pour que d'autres femmes qui ont vécu cette horreur puissent se libérer, et puis pour faire tomber l'image de cet homme, et puis pour permettre que d'autres situations un peu similaires puissent ne plus exister, dans le meilleur des cas. Hein, c'est...
Est-ce que vous considérez que ça a été courageux de votre part de parler? Est-ce que vous-même, ça a été dans votre entourage, vous avez été parfois jugé sévèrement?
Oui.
Oui?
Oui, oui, oui. Jugé sévèrement, pas comprise, pas crue. Pas crue, pas comprise, jugé comme quelqu'un qui exagère et jugé comme déséquilibré un peu, oui. Celle qui est condamnée à déprimer, parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé quand je parlais de pleurer. Mais bon, c'est somme toute assez logique, quoi, surtout quand on a affaire à des personnes en face qui ne nous croient pas. Donc on a envie, on a besoin d'être cru et d'être considéré dans ce qu'on a vécu comme souffrance, même quand c'est un peu derrière nous. Voilà, donc oui, mal considéré, oui, oui. Quand on voit qu'il y en a qui ont le courage de témoigner et qui sont mis de côté par la famille, considérés comme bouc émissaire, hein, des fois, c'est grave. Alors que c'est vraiment du courage de témoigner. Mais en même temps, je comprends que ça bouleverse tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Parce que quand il y a l'image d'un père ou d'une mère qui descend de son piédestal, Ça bouleverse énormément, ça fait vivre un traumatisme aussi pour les autres membres. Donc le déni, il est puissant. Il est...
Et aujourd'hui, vous ne regrettez pas de parler, c'est un besoin.
Je ne sais pas si c'était à refaire, si je pourrais refaire tout ça. Je pense que j'essaierai de m'en sortir autrement parce que je trouve que c'est quand même trop difficile. Maintenant, vu la façon dont j'ai été accompagnée, pas bien accompagnée non plus, hein, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Mmh. J'ai fait ce que j'ai pu, voilà.
Là.
Donc on va, bienvenue donc à Fréquence Mistral pour nous parler de votre cas de violence que vous avez subie, d'agression sexuelle, on peut dire ça comme ça.
Et de viol.
De viol, voilà. Oui. Donc vous êtes Elisabeth. On va voir un peu dans quelle situation ça s'est passé, en quelle année ou comment vous avez vécu tout ça.
D'accord, merci.
Alors, c'est passé avec un thérapeute, c'est ça ?
Quelqu'un qui se disait formateur, qui se disait pas thérapeute, mais qui faisait des formations de développement personnel et de communication, mais qui utilisait largement des méthodes thérapeutiques et qui invitait les gens à se lâcher dans une confiance que j'ai jamais connue. Moi qui ai fréquenté beaucoup les groupes de thérapie, j'ai jamais connu autant d'abandon de personnes qui se lâchaient et qui disaient autant de choses et qui vivaient autant d'émotions. Donc c'était clairement de la thérapie. Mais c'est vrai que ce monsieur se défendait en disant qu'il n'était pas thérapeute, qu'il était formateur, ce qui lui donnait le droit, d'après lui, d'avoir des relations sexuelles avec des stagiaires, quoi, dont j'ai fait partie.
Donc, ah, c'est subtil, quand même.
Ah ben, il y en avait beaucoup qui ouais. passaient. Ça, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de stagiaires être entraînés par lui dans un coin. Et puis, pour l'instant, on est cinq à avoir témoigné et trois à avoir porté plainte. Mais c'est sûr que ça concerne un grand, grand nombre de femmes, plusieurs dizaines.
Alors, c'était dans les années quoi, 90 ?
Oui, dans les années 90. Moi, j'ai commencé à faire un stage avec lui en 91, stage de développement personnel. À ce moment-là, payé par mon administration parce que j'étais assistante sociale. Donc, ça faisait partie des stages possibles. J'ai vécu dès le premier stage ce qu'on appelle un « rebirth ». C'est-à-dire une méthode de respiration, hyperventilation, qui permet de vivre des régressions. Enfin bref, ça crie dans tous les coins, ça hurle, ça pleure. Donc pour dire à quel point les gens étaient dans une ambiance de confiance et de lâcher prise énorme, quoi. Donc moi, je me suis trouvée dans ce stage avec... j'avais confiance au début parce que j'avais beaucoup lu des livres et écouté des cassettes qui parlaient de tendresse, qui parlaient de communication et qui m'enchantaient complètement parce que j'avais l'impression qu'il avait tout compris de ce qui concerne les rapports humains et principalement les relations avec les femmes parce qu'il encensait beaucoup les femmes. Donc, quand j'ai vu l'ambiance le premier jour, le soir, j'avais envie de partir. Mais bon, je suis restée. C'était tellement impliquant. Il mettait le ton dès le début en invitant les gens à pouvoir se doucher à trois. Parce qu'il y avait pas beaucoup il y avait une seule douche pour une vingtaine de personnes, ce qui est peu. Et d'entrée, il invitait à la nudité. C'était pour dire les conditions d'hébergement, les voilà, il y a une seule douche, il y a un WC intérieur, un WC extérieur. Donc la meilleure place, c'est celle du milieu. En fait, je me trouvais au milieu d'un groupe de 20 personnes, avec des gens qui pour la plupart, pour un certain nombre, le connaissaient. Il y avait des personnes avec des professions, psychologues, chefs d'entreprise, beaucoup d'infirmières, enseignants. Donc moi, j'avais pas du tout confiance en moi à ce moment-là, mais je rentrais dans un univers avec des personnes qui parlaient de leur vie. Et voilà, jamais je me suis autant confiée à des personnes qui, pour moi, représentaient un certain niveau et puis une certaine intelligence, quoi. Hein. Des gens qui réfléchissaient, qui se posaient des questions. Donc, ça m'a aussi mise en confiance. Et puis, on se prenait beaucoup dans les bras. J'avais jamais connu ça non plus. Donc, le fait de les hugs, comme on dit. Mmh. Donc, se prendre dans les bras à tour de rôle pour se dire bonjour. Et moi, qui avais vécu quand même des traumatismes, je me suis lâchée. C'est-à-dire que cette ambiance m'a fait beaucoup pleurer. Et je me rappelle avoir été dans les bras de ce monsieur qui me disait « Oui, tu en as bavé ». Et je pleurais parce que c'était la première fois de ma vie que je pouvais m'abandonner à ce point et avoir le sentiment d'être, d'être entendue à ce point.
Et par rapport à ce que vous aviez vécu avant, alors c'était, est-ce que c'était des agressions sexuelles aussi ?
Non, j'étais dans une famille difficile, famille d'origine, et dans un très mauvais couple. Donc non, c'était pas des agressions sexuelles, mais c'était de la soumission et puis de la violence psychologique.
Donc déjà fragilisé à votre arrivée, évidemment, comme beaucoup de personnes. Est-ce que c'était au niveau des stagiaires, c'était plus des femmes ?
Non, il y avait la parité, parce qu'il y avait beaucoup de monde sur liste d'attente, donc ils s'arrangeaient pour qu'il y ait la parité homme-femme, donc 10 hommes, 10 femmes.
Donc un lieu, a priori, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, de compassion.
Oui, oui. Et puis des techniques qui permettaient de se lâcher, puis qui permettaient, soi-disant, une libération. En fait, l'idée, c'était qu'on pouvait se libérer en un stage ou en peu de stages de toutes les souffrances passées, en rendant la violence symboliquement aux personnes qui nous avaient fait violence. Donc, comme si c'était facile, moi, je reconnais que ça m'a aidée dans une certaine limite, mais le problème, c'est que ça m'a mis dans l'illusion qu'au bout d'un ou deux ou trois stages, hop là, il n'y avait plus de soucis, quoi. Alors que se réparer, ça peut demander beaucoup de temps, hein. C'est pas aussi simple dans la réalité.
Donc ça, dans le côté positif, ça vous a permis d'apprendre des techniques de résilience ou...
Un peu.
Avant l'histoire de viol.
Oui, je reconnais qu'il y a eu des choses positives et ça m'a permis aussi de parler de moi à d'autres et d'entendre des témoignages. Ça, c'était complètement positif. Puis dans les livres, il y avait des choses intéressantes, mais il y avait aussi des inepties et puis beaucoup d'illusions. Et ça, c'est grave. Et puis aussi, il y a eu les viols, quoi.
Donc à cette époque-là, vous aviez quoi, une trentaine d'années ?
Une trentaine d'années, voilà. Oui.
Une trentaine d'années, donc en mal d'amour et d'amitié aussi, j'imagine.
Oui. En mal de relation de confiance, clairement, oui. En mal de reconnaissance, oui.
Et donc, est-ce que vous avez senti une envie de séduire de la part de cet homme ? Vous parliez de vous sentir aimée. Comment ça s'est passé ?
Alors, l'approche. C'est lui qui m'a entraînée à lui. Je lui plaisais d'abord, sans doute, hein, parce qu'il s'adressait quand même... Toutes les femmes n'y passaient pas. C'est lui qui m'a attirée à lui. À la fin du premier stage, il me tirait comme s'il y avait un fil entre nous et qui m'attirait à lui. Et puis, dès ce moment-là, c'était déjà tordu parce que, en me disant au revoir, il m'avait dégrafé mon soutien-gorge en me disant « laisse pousser tes seins ». Moi, le problème, c'est que moi, je croyais que tout était thérapeutique. Donc, c'était son mode opératoire de faire croire aux femmes. Après, le deuxième stage, après, ça a été, pénétration. Son mode opératoire, c'était de pénétrer les femmes avec un doigt en disant « laisse ton corps s'ouvrir, apprends à pousser ». Enfin bref, c'était un truc dingue. Et ça, c'était par surprise. Donc maintenant, je sais qu'il y a viol, il y avait viol parce que c'était pénétration par surprise, quoi. Ouais. Le problème, c'est que moi, je croyais que tout était thérapeutique et que j'étais me sentant un peu l'élu aux yeux des autres. Je me sentais une place aussi. Et voilà, l'impression de bien travailler dans ce groupe, de faire bien comme il faut, et puis d'avancer dans ma vie, quoi.
Donc ça a eu lieu plusieurs fois.
Oui.
Et quand est-ce que vous avez fait réagir? Comment vous vous sentiez?
Ouais.
Il y avait un rapport de séduction.
Il y avait un rapport de séduction. De toute façon, il parlait beaucoup d'amour, de relations sexuelles. D'ailleurs, en confondant nettement amour et séduction, quoi. Hein, c'est sûr que pour lui, il faisait croire quelque part que s'il n'y avait pas d'attirance, il n'y avait pas d'amour, quoi. Donc, moi, j'étais séduite par lui parce que, oui, il était charmant, effectivement, il parlait bien. Mais sinon, il était beaucoup plus âgé que moi, donc je n'étais pas attirée sexuellement par lui. J'étais contente qu'il me valorise. Et je suis devenue dépendante de ce côté. On me valorise, on me dit que je suis merveilleuse. J'avais jamais été traitée comme ça. Sûrement pas dans ma famille, ni dans mon couple, quoi. Donc, m'entendre dire que j'étais merveilleuse et devant les autres, c'était quelque chose d'important pour moi à l'époque. Et j'étais à fond dedans, quoi. Ouais.
Et qu'est-ce qui a été la descente aux enfers après pour vous? Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté?
Alors, ça a été la confusion, ça a été la descente aux enfers. D'abord, il m'avait écrit un texte. Et puis après, au moment d'un stage, il avait dit qu'il dédicaçait ce texte à une autre. Et moi, je me suis interposée en disant, mais non, tu l'as écrit pour moi. Et puis là, il tergiversait en disant, oui, mais je l'ai écrit pour toi, mais il peut être dédicacé aussi à une telle. Enfin bref, j'ai compris qu'il entraînait d'autres femmes et qu'il y en avait beaucoup. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à lui poser beaucoup de questions. Et puis son truc, c'était de rendre la violence. Donc j'avais aussi des échanges de courriers avec lui. Et il me disait qu'il m'aimait. Donc pendant un temps, moi, je me suis crue sa maîtresse. Et puis après, j'ai compris que j'étais pas sa maîtresse. J'étais une parmi d'autres. Et puis je voulais lui en parler parce que j'étais dans une grande, grande confusion mentale. Et lui me disait, si tu as reçu de la violence, tu peux me la renvoyer. Donc j'avais renvoyé. Parce que c'était son truc, de renvoyer symboliquement la violence. Alors ça pouvait être
ça souffrant. Le dédouane.
Enfin... Oui, puis c'était sa méthode aussi. Il appelait ça c'est la symbolisation. Peut-être que ça peut marcher, mais sauf que ça peut être aussi compliqué. J'ai vu pas mal de stagiaires rendre un caillou à leurs parents en disant « je te rends la violence que tu m'as faite ». Et en fait, ça cassait des relations dans les familles. Et moi-même, vis-à-vis de mes parents, j'ai été un peu tordue à un moment donné. C'était pas simple avec eux, mais j'ai quand même pas fait la démarche de donner un caillou à mes parents en disant c'est la violence que vous m'avez faite, quoi. Mais ça pouvait aller jusque là. Mm-hmm. Ça pouvait aller jusque là. Puis il disait que ça marchait et que hop, on était libérés d'une violence en démarchant comme ça. Donc un peu simpliste, un peu facile. Et puis son truc aussi, c'était de dire qu'on est responsable chacun de son bout de la relation. Et ça, c'est OK dans une relation de confiance, dans une relation d'authenticité, et puis dans une relation égalitaire. Mais quand on est dans une relation de prédation, ça ne marche pas du tout. Au contraire, hein, du coup, on reçoit... on se fait violenter, on se fait violer. Et puis, j'avais l'idée que moi, j'étais responsable.
Donc, comment on passe de l'admiration... Enfin, vous étiez admirative au départ, ouais, de cet homme et de ses connaissances. Il y avait un certain pouvoir, évidemment, puisqu'il y avait admiration. Vous êtes sentie dans un rôle d'un peu de soumission rapidement.
Oui, de fascination,
ouais,
en même temps que d'autres. Mm-hmm. Parce que tout le monde l'encensait au moment de ses stages.
Et donc, le choc pour vous, le premier choc, ça a été de voir qu'il faisait la même chose à toutes les femmes.
À beaucoup d'autres. Ouais.
Et c'est ça qui a été le premier...
La première révélation pour moi, oui. La première un peu prise de conscience qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas, quoi.
Donc vous avez pu lui renvoyer votre colère.
C'était pas de la colère à ce moment-là, j'en étais pas là. Ouais. J'en étais vraiment pas là. C'était de dire mais quand même je me sens pas bien, c'est confus. Et lui de me dire il faut que tu fasses ça et puis voilà. Puis après, il a organisé des stages avec un plus grand nombre de personnes, des centaines de personnes. Donc là, j'y suis plus allée parce que moi, je ne m'y retrouvais plus du tout. Hein. Donc ça devenait vraiment le gourou. Voilà, j'ai commencé à déchanter largement.
Donc au bout de combien de temps après ces stages?
Je dirais entre 1 à 3 ans après les stages, oui. Oui, ça a été progressif, quoi. Oui. Parce qu'après, je pouvais plus voir un livre dans une librairie sans être mal à l'aise, sans, voilà. Et puis je voyais bien qu'il y avait des choses, qu'il y avait eu de l'abus. À ce moment-là, je considérais qu'il y avait vraiment de l'abus. J'étais aussi en thérapie. J'ai fréquenté différents thérapeutes aussi parce que c'était pas évident de trouver de l'écoute. Et puis à ce moment-là, il y en a une qui m'avait dit mais oui, mais quand même c'est trop facile. Elle parlait pas de viol, mais elle parlait d'abus, quoi. Mm-hmm. Donc petit à petit, j'ai enfin pris en compte qu'il y avait abus sexuel, puis après pris en compte le fait qu'il y avait eu viol et que sur de nombreuses femmes. Et que c'était un serial violeur, hein, simplement, quoi.
Donc, y a eu la thérapie, il y a eu... Donc après, vous avez eu le sentiment de colère, le déni, comment ça
s'est passé? La colère, elle est venue quand même tard, hein, c'est vrai. Mais la dépression, la dévalorisation, la culpabilité, la confusion. Parce que la confusion mentale, c'est terrible, quoi. L'impression... de ne pas y arriver, d'essayer de faire ce que je peux et de ne pas y arriver et de suivre ses consignes. Parce que rendre la violence, puisque c'était libérateur et que j'y arrivais pas, c'était un peu une descente aux enfers parce que j'avais l'impression de ne pas en faire assez et puis de ne pas être... je sais pas, de ne pas y arriver et de m'en vouloir. De m'en vouloir, oui.
Donc, une thérapie qui a duré longtemps?
J'ai fait beaucoup de thérapie et beaucoup de stages aussi, parce que je cherchais un peu l'équivalent, parce que c'est vrai qu'au cours des stages avec ce monsieur, il se passait des petits miracles. Et puis, j'avais l'impression que tout pouvait se débloquer grâce à ces techniques et grâce à l'ambiance qui régnait dans ces stages. Donc, par la suite, j'ai aussi fait une formation de thérapeute, de gestalt-thérapeute. Et j'en ai beaucoup parlé quand même, hein, en le citant. Mmh. Et je n'ai pas eu beaucoup d'écho de personnes disant « c'est pas normal ». Tout ce que j'entendais de la part des thérapeutes ou des formateurs en école de thérapeute, c'était de dire « moi, ce n'est pas ma technique, moi, ce n'est pas ma pratique ». Mais des gens qui s'indignaient, non, à ce moment-là, il n'y en avait pas.
Et vous pensez que, est-ce que c'était un soutien entre thérapeutes ou...
Je ne sais pas exactement. C'est vrai que je pense qu'il y avait de ça parce qu'il avait sa notoriété. Mmh. Ouais, donc c'était un peu quelqu'un d'intouchable et de tellement bien qu'il ne fallait pas toucher à l'image.
Et quand est-ce que vous avez décidé de porter plainte?
C'était en 2003. Oui, j'ai porté plainte en 2003 parce qu'à ce moment-là, j'aboutissais... j'étais aux 10 ans. Passé 10 ans, il y avait prescription. Donc,
prescription, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure.
Voilà, ouais.
Voilà.
Ouais. Donc, et puis à ce moment-là, je connaissais une association à Paris qui soutenait les personnes ayant vécu des viols venant de personnes en position d'autorité. Mais en fait, c'était une petite association de rien du tout. Et bon, j'ai été soutenue au niveau de l'écoute, mais autrement, pas plus que ça, quoi. Donc, ça a été classé sans suite. Le tribunal m'a renvoyé un courrier disant que... C'était de l'abus de faiblesse, mais pas de viol.
Est-ce que c'est parce que vous aviez dépassé la date?
Non, je n'avais pas dépassé la date. Ça n'avait pas été considéré comme viol. Ça avait été considéré comme abus de faiblesse. Mmh. Après, j'ai continué d'échanger un peu des courriers avec lui en essayant d'eux, puis après j'ai laissé tomber. Et puis après, j'en ai parlé, puis j'ai pas forcément eu de retour. En tout cas, pas des thérapeutes dans un premier temps, ou une seule qui... Oui, il y en a une à ce moment-là, c'était dans les années 2000, on va dire. Il y en avait une qui me disait qu'il y avait abus, mais elle n'employait pas le terme viol, mais voilà quoi. C'est vrai que c'est grâce à MeToo Media que j'ai pu relancer les choses et que les mentalités ont changé, quoi. Sinon, les gens, même les thérapeutes, n'étaient pas prêts à considérer la gravité des faits.
Donc vous avez porté plainte une seconde fois, c'est ça ?
Oui.
Alors
par la suite, j'ai fait une dépression vraiment sévère. Je voulais mourir et j'ai été hospitalisée pendant 3 mois en psychiatrie. Et puis au cours de mon hospitalisation, il y a une ergothérapeute qui avait prêté un livre de ce monsieur à une autre patiente que je connaissais. Et moi, je me suis manifestée en disant, mais quand même, faut arrêter, quoi. Mmh. Et puis, j'ai pu en parler aussi à un médecin et à un psychiatre. Et puis j'ai été crue et considérée. Et puis, j'ai commencé à lui faire un courrier. Et quand je suis sortie d'hôpital psychiatrique, j'ai contacté une psychologue avec qui j'ai travaillé ce courrier. C'était un peu enfantin quelque part, parce que aucune conséquence juridique, c'est sûr, hein, mais je lui ai envoyé un courrier sous forme de mail que j'ai travaillé avec cette thérapeute qui a été vraiment soutenante, en lui disant que sa place était en prison et que ce qu'il avait fait était très très grave.
Donc ça, c'était en quelle année ?
Ça, c'était en 2022. Mmh. Et puis ensuite, j'ai contacté une autre victime de ce monsieur que je connaissais. Et puis ensemble, on a adhéré à MeToo Media, donc association qui s'occupe des violences sexuelles faites aux femmes venant de personnes célèbres. Donc avec MeToo Media, on nous a encouragés à porter plainte à nouveau. Donc j'ai porté plainte à nouveau en 2023. Et 2 autres personnes aussi, on était en contact, on était 3 victimes.
Il y a eu en 2022 et en 2023
En les 2022, plaintes? J'ai fait le courrier, puis la plainte, je l'ai déposée en 2023.
D'accord. Mmh.
Voilà. Le courrier, je n'ai pas eu de nouvelles, hein, le mail, pas de nouvelles, voilà.
Et alors maintenant, il y a prescription complètement ?
Eh ben non, parce que il y a eu le tribunal m'a indiqué que c'était classé sans suite, mais j'ai fait appel, donc j'attends la réponse du tribunal par rapport à mon appel en justice.
Aujourd'hui, donc, par rapport à votre travail, vous avez été, j'imagine, en arrêt maladie pendant quelques années.
Dépressive, ouais, à ne plus. Mais oui, j'ai vécu beaucoup d'épisodes de dépression, de me poser 100 000 questions, de me culpabiliser comme pas possible. Bon, c'était pas le seul traumatisme, mais ça a été dans ma vie un traumatisme grave. Et ce qui a été traumatisant aussi pour moi, c'est de ne pas avoir été prise en compte par les thérapeutes et par les formateurs et par les personnes lambda, et d'avoir été désignée coupable même, hein, désignée comme déséquilibrée. Enfin, on me faisait comprendre que j'avais été dans une relation égalitaire, que j'avais eu des rapports sexuels avec un homme, point barre, et que voilà. Et ça a été le plus dur, je dirais. Enfin, je ne sais pas si ça a été le plus dur, mais en ce moment, c'est le plus dur, parce qu'être désigné coupable par un groupe, c'est vraiment difficile, quoi. C'est vraiment difficile. Surtout que j'étais dans le milieu des thérapeutes, et j'ai moi-même été thérapeute pendant 7 ans, et je me suis même fait une contre-pub pas possible, quoi, en essayant de trouver des témoignages de femmes auprès de collègues thérapeutes. Et je me suis fait une contre-pub d'enfer. Et on me désignait comme la personne qui va pas bien, qui est névrosée, qui... Voilà.
Pas qualifiée d'hystérique ?
Ah, peut-être un peu parano, c'est sûr, le... bipolaire, ouais. J'ai tout entendu. Ouais, mm-hmm. Ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, c'était facile, hein, c'est sûr. Hein.
Par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui dans les personnalités connues, comme Depardieu, comme de nombreux autres, Nicolas Hulot, enfin, bon, est-ce que le pouvoir, la notoriété fait que tout est plus facile et impuni ?
Ouais. Ah ouais, mais complètement, complètement. C'est tellement facile, oui, c'est tellement facile, surtout quand on... Ce monsieur faisait croire qu'il avait des démarches qui permettaient aux femmes de se libérer, quoi. Et il parlait beaucoup de sexualité féminine. Il se croyait, ou il se disait grand expert en sexualité féminine. Donc, oui, c'est sûr qu'il a entraîné beaucoup de confusion chez les femmes, chez les hommes aussi, sans doute, hein, de toute façon. Voilà, quoi, c'est... Et puis, il a fallu vraiment les mouvements de MeToo pour comprendre que c'était grave ce qui s'était passé et que c'était des viols en série, quoi, quand même. Parce que on considère plusieurs dizaines de femmes qui ont été violentées par cet homme, c'est sûr.
Parce qu'on peut considérer que c'est un peu comme une secte face à un gourou, quoi.
Il y avait une ambiance de secte parce qu'il parlait comme un gourou, parce qu'on l'encensait, parce qu'à la fin des stages, il vendait des tas de livres qu'il dédicassait. On passait à la queue leu-leu pour se faire dédicacer des livres. Voilà, quoi, c'était...
Donc, aujourd'hui, votre sentiment, c'est quoi ? C'est de que justice soit faite, qu'il soit derrière les barreaux ?
Il ne sera pas derrière les barreaux parce qu'il est âgé, mais que son image tombe, que les gens qui lisent ses livres les lisent en conscience, que les autres femmes se manifestent, et qu'on arrête de culpabiliser les femmes qui ont le courage, qui ont le courage de parler, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai été largement dégoûtée d'avoir eu si peu d'écho, si peu d'écoute, et autant d'être renvoyée à moi-même, alors que... Et je ne suis pas la seule, hein, parmi les 5 femmes qu'on connaît, qui ont parlé... Eh ben, on est des femmes courageuses. C'est sûr qu'on est fragile, ok, on a été fragilisées, mais il faut avoir le courage de parler, quoi. Et quand on est renvoyé à nous-mêmes et en plus traité d'une forme de maladie mentale, ça fait doublement mal, hein. Ouais.
Est-ce que vous suivez toutes ces femmes qui parlent, comme Judith Godrèche l'a fait, comme...
Oui.
Anouk Grimbert.
Oui, beaucoup. Ouais. Et je suis assez dégoûtée du procès de Pardieu, par exemple. Mm-hmm. Je trouve que c'est d'une indécence d'avoir eu affaire à un avocat à ce point masculiniste et méprisant vis-à-vis des femmes. Ça fait mal aussi. Hein. En même temps, on en parle, donc c'est bien. Mais je trouve que c'est difficile de faire évoluer les choses. Hein. Puis c'est vraiment difficile, ouais. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que les personnes lambda soient à l'écoute et qu'elles prennent en compte ce qui se dit et la vérité des faits. Parce que quand il y a autant de femmes, pour Depardieu, pour PPDA par exemple, pour citer que, autant de femmes qui portent plainte, c'est quand même qu'il y a une réalité, quoi. Et je ne comprends pas les gens qui tournent le dos à ces réalités-là et qui préfèrent, par lâcheté ou par gêne ou je sais quoi, ou par envie de croire à un monde de bisounours, qui préfèrent dire ça n'existe pas, elles exagèrent ou elles vont pas bien ou je sais quoi. J'avoue que c'est vraiment la mentalité du français moyen que j'aimerais qu'elle change parce que des prédateurs, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais par contre, des personnes qui les soutiennent, qui les encouragent ou qui couvrent la situation, qui font croire que c'est pas si grave. Il y en a énormément, énormément. Et puis là, je parle de violences faites aux femmes, mais il y a aussi les enfants, puis il y a les prédations de toutes sortes, quoi. Quand on a affaire à quelqu'un qui se comporte mal dans un groupe quelconque et que les autres font semblant de ne pas voir ou qui disent « mais non, il n'a pas voulu dire ça, il n'a pas voulu faire ça », moi, ça, je ne le comprends plus maintenant. Et j'ai envie de secouer un peu les gens, mais bon. C'est peut-être un... En même temps, je sais que j'ai été aussi dans cette forme de déni, puisque au début que je connaissais cet homme, si on m'avait dit la moindre chose négative le concernant, si vous m'aviez dit ça, je vous aurais détesté. Ça veut dire que j'étais sous emprise. Hein. Mais l'emprise, on en sort, quoi. Quand on voit des incohérences, quand on voit des comportements malsains, à un moment donné... On ouvre les yeux et puis quand on entend des personnes vivre autant de souffrances, eh ben moi je pense que c'est un peu un devoir de solidarité de chaque citoyen d'être à l'écoute d'une personne qui a vécu des choses et quand il s'agit de plusieurs personnes encore plus. Enfin c'est mon sentiment, mais bon.
Elisabeth, je vous remercie d'avoir bien voulu témoigner de votre viol, de votre parcours difficile et douloureux. Et aujourd'hui, donc, vous êtes en attente qu'il se passe des choses avec le tribunal, avec la justice. Merci d'avoir apporté votre témoignage et d'avoir ce courage. Et j'espère que vous serez entendu.
Grand merci à vous. Ça me fait toujours du bien de témoigner et en espérant que ça va réveiller d'autres personnes, surtout les femmes qui ont vécu comme la même chose que...
Et vous diriez que l'emprise, on en sort.
L'emprise, on en sort, bien sûr. Bien sûr, c'est difficile, mais on en sort.
Oui.
Et il n'y a pas que l'emprise sexuelle, et l'emprise psychologique. On en sort, oui.
Oui.
C'est un long chemin, mais ça... C'est possible, bien sûr, et on en ressort gagnant.
Donc, on rappelle ce numéro de téléphone, 0800 05 95 95, pour permettre de grouper donc, les témoignages.
Voilà.
Voilà.
Un grand merci.
Merci à vous, et bravo pour votre courage. Et ben, je vous souhaite une bonne réparation et une belle vie à venir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.